La seconde présentation en binôme, c'est Isabelle Gérard et Marianne Salin, qui vont nous présenter en fait la revue European Journal of Taxonomy. Isabelle Gérard est responsable du service des publications du Musée royal d'Afrique centrale de Terburen. Et Marianne Salin est éditrice. Je pense que c'est ça, hein, la vraie casquette, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et donc, elles vont nous parler de la revue. Je leur laisse la parole immédiatement.
Bonjour à tous et désolé pour ce petit atermoiement. Alors en fait, on fait la présentation à quatre mains ou à deux voix parce qu'en fait, en parlant d'acteurs, on en a déjà parlé ce matin, il y a les acteurs humains et les acteurs machines. Moi, je vais vous parler de l'aspect collaboratif et donc de l'association de personnes ensemble qui contribuent à un journal européen. Et Marianne va vous parler de la collaboration entre les data et les machines autour de notre journal. Alors en fait, qui sommes-nous? Vous l'avez constaté, Marianne et moi, on est de deux institutions totalement différentes, une en Belgique et une en France, mais en réalité, on représente neuf institutions européennes qui managent ensemble, qui publient ensemble une revue européenne dédiée à la taxonomie. On va en parler tout à l'heure. On est, comme vous tous, des institutions nationales et publiques. C'était vraiment notre enjeu. Et en fait, on s'est rencontrés, on a décidé ce projet du consortium du journal européen à travers un énorme grand groupe qui représente 60 institutions à l'échelle européenne, qui s'appelle le CETAF, qui est dédié à la taxonomie, aux facilities en taxonomie. Et en fait, grâce à ce groupe de travail qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, on pouvait discuter aux enjeux de l'édition, de l'open science, et à partir de là, avoir ce projet d'édition. Alors évidemment, l'idée pour nous tous, c'est la science ouverte, et donc notre objectif, c'est le même que vous tous, c'est la publication des résultats dans différents moyens de support, de médias, en ayant les meilleurs référencements, les meilleures indexations possibles, en ayant évidemment aussi un impact, donc des indices de bibliométrie qui soient bons, dont le fameux facteur d'impact. On voulait rester en veille technologique, mais aussi appliquer les nouvelles évolutions technologiques de nos métiers. On voulait aller vers l'interopérabilité et surtout l'extraction des données pour les mettre vers des bases de données internationales. On veut faire absolument le lien entre les différents métiers et les différentes compétences. Et surtout, ça c'est vraiment un de nos éléments clés, on veut permettre d'éviter les isolements entre les personnes qui travaillent dans l'édition. C'est aussi ce que fait ce réseau Médici. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un échange de bonnes pratiques entre collègues nationaux et internationaux. Et donc notre idée, d'où le titre de notre intervention, c'est d'être open à tous les points de vue et surtout aussi open mind. Alors, je vais vous passer rapidement ce slide, puisqu'on a perdu beaucoup de temps. C'est dans ce slide, vous voyez toute la partie en verte, c'est nous tous. C'est ce que nous faisons, nous, comme secrétaire d'édition, gestionnaire de revues, gestionnaire de publications, de monographies, etc. Et vous voyez qu'en fait, nous, on est en lien avec tous les autres métiers. On est en lien, bien sûr, avec les scientifiques qui sont auteurs, évaluateurs, lecteurs, qui forment la communauté scientifique. On est en lien avec tous ceux qui font la diffusion de nos publications. Et on est évidemment en lien aussi avec tout ce qui fait l'agrégation de nos publications. Mais nous, vous voyez, on a quand même une grande, grande part du travail. Et donc, ça, cette expertise-là, et comme le disait justement le vice-recteur de l'université au premier jour de l'ouverture des journées, on veut la maintenir en interne dans nos institutions publiques nationales. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de convaincre dans tous les réseaux où nous allons avec notre journal qui est un peu un laboratoire, une expérience pilote, c'est de prouver qu'on doit garder ces expériences dans nos institutions et bien faire la différence entre la partie scientifique du travail et la partie technique du travail. Alors en deux mots, parce que bon, la taxonomie n'est pas connue de la plupart d'entre vous. La taxonomie, c'est une discipline de la zoologie et il s'agit en fait de décrire les espèces, les nouvelles espèces. Donc comme vous le voyez sur le petit schéma, nous avons un scientifique qui part sur le terrain, qui collecte des spécimens, qui les ramène dans son institution et là qui va en fait les confronter à deux réalités. La première réalité, ce sont les autres espèces qui sont déjà dans les collections. La deuxième réalité, c'est toutes les publications scientifiques existant sur la famille, l'ordre, les autres espèces relatives au domaine d'activité, entomologie, arachnologie, etc. En comparant cela, il va pouvoir décrire son espèce. Aujourd'hui aussi, évidemment, utiliser l'étude moléculaire, donc l'étude ADN, et à partir de là, découvrir si ton espèce est une nouvelle espèce qui n'était pas encore connue pour la science, et il va la baptiser. La décrire, la baptiser, lui donner un nom, ça nécessite à ce moment-là une publication scientifique dans un article qui est absolument obligatoire. Et cette description dans l'article scientifique, ensuite, vous le savez, en temps traditionnel, elle était archivée dans les bibliothèques et diffusée plus ou moins bien dans la communauté scientifique internationale. Aujourd'hui, avec l'open access, elle est diffusée au nombre le plus large possible et surtout, elle permet aujourd'hui avec les nouvelles technologies de directement extraire toutes les données qui sont dans l'article, non seulement le nouveau nom de l'espèce scientifique, mais toutes les données relatives à sa localisation, relatives à sa description, relatives à son lien avec les autres sous-espèces, avec éventuellement des espèces qu'on a renommées, etc. Et donc, en fait, directement, nous, notre objectif, c'est que quasi en temps réel, dès la publication de l'article, c'est de données partent vers les grandes bases de données internationales relatives à la zoologie et donc puissent être associées aux données de tous les autres. Comme vous le voyez, il y a quand même environ 20 000 espèces nouvelles qui sont décrites chaque année dans le monde. Donc c'est quand même capital de rassembler toutes ces informations. Alors quel était l'enjeu de notre projet? Donc on était au sein de ce groupe des 60 institutions et on se rendait compte qu'il y avait une énorme fragmentation des revues en taxonomie et que certaines d'entre elles étaient très isolées. D'abord, elles publiaient encore dans leur langue nationale, le hongrois, le tchèque, l'espagnol. Donc elles avaient déjà le problème de la communication dans la communauté anglophone. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes travaillaient seules dans leur coin. C'était une partie de leur affectation de travail, pas forcément au sein d'un service d'édition. Et donc, en fait, finalement, dès qu'elles voyaient qu'il y avait des nouvelles technologies dans l'édition, elles ne parvenaient pas à suivre et elles étaient isolées. Et donc, nous, notre objectif, ça a été de faire une proposition en disant, d'abord, commençons par partager nos pratiques. Et sur cette base, on s'est dit, et si on essayait de créer un journal ensemble dans lequel on appliquerait ensemble, à terme effectivement d'essai au début, parce qu'on a commencé il y a 12 ans, on appliquerait les nouvelles technologies peu à peu. Ça veut dire que chacun d'entre nous pourrait aussi les rapatrier dans son propre service ou dans sa propre institution et les appliquer à ses autres revues. Et donc effectivement, avec cinq fondateurs, donc c'était le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, trois institutions en Belgique, dont la mienne, et Londres, nous avons décidé de lancer cette revue dédiée à la taxonomie. Et grâce au groupe européen, ça nous permettait aussi d'être en lien avec tous les projets internationaux, et donc par exemple de se poser les bonnes questions sur le data mining, sur les identifiants, sur la manière de créer des statistiques. Les technologies en évolution, etc. Alors, ce journal, il a une caractéristique particulière. En fait, il est la propriété des 9 institutions, parce que maintenant on est 9, des 9 institutions qui le publient. Et donc, en fait, certaines revues ont décidé de fusionner dans ce journal européen, d'autres, au contraire, ont gardé leur propre titre, ce qui amène de nouveau que l'idée, ce n'est pas de réduire, l'idée, c'est effectivement d'avoir cette revue en plus et éventuellement qu'elle apporte une pertinence à ceux qui se sentaient dans le cadre d'une revue peut-être moins pertinente ou trop locale. Alors notre modèle, c'est bien sûr le modèle open access, ça c'était évident, mais en tant qu'institut national public, notre objectif c'était dès le départ que cette revue soit en modèle diamant. Alors évidemment, dès le départ, on a posé beaucoup de questions, d'où le lien avec les autres acteurs de l'édition, qui était la question des échanges pour les bibliothèques. Et la deuxième question, c'était et si quelqu'un veut du print? Donc on a mis en place un système de print on demand. Les auteurs, les bibliothèques qui le souhaitent, même si c'est de l'open access, peuvent avoir du print on demand. Vous avez quelques exemples que je pourrais faire circuler. D'autre part, on a fait du rétrocatalogage et on a fait du partage d'informations avec les différentes bibliothèques européennes en s'associant à un projet européen qui s'appelait Biodiversity Heritage Library et dans lequel non seulement on a rétrocatalogué, numérisé l'ensemble de nos publications, mais ensuite maintenant, en temps réel, nos publications vont directement aussi dans cette librairie, dans cette bibliothèque dédiée à la zoologie, enfin, à tout ce qui est environnement. Alors, l'idée, c'était évidemment créer une publication, forcément, il y a des coûts, ça vous le savez tous. Et donc, l'idée, c'était comment est-ce qu'on va faire pour mettre en commun les dépenses et le personnel. Alors, en fait, l'idée, c'est que nous sommes dans un consortium avec un contrat de coédition entre nous et chacune des institutions apporte du temps de travail. Donc, ça peut être par exemple 30% du temps de travail d'un secrétaire d'édition qui est dédié au journal européen. Et toutes les institutions apportent une somme qui est relativement minime parce qu'on essaye d'utiliser beaucoup de logiciels open source, évidemment. Et donc, on essaye de limiter les coûts. À la fin de l'année, on envisage ce dont on aura besoin pour l'année suivante et on partage les coûts en neuf. Alors, avant tout, ben justement, moi je vous ai dit, je parle de l'humain. L'important pour nous, c'est effectivement que nous avons donc des secrétaires d'édition qui sont répartis en Europe. Nous avons un éditeur en chef qui est d'origine italienne. Je suis la manager au niveau de la production du journal. Donc moi, je suis en Belgique. Nous avons donc des desk éditeurs non seulement au Muséum à Paris, mais à Madrid, au Danemark, à Leiden aux Pays-Bas, ou encore dans d'autres institutions en Belgique. Et j'oublie encore un pays, je pense, en Allemagne. Et donc, l'idée, c'est effectivement de partager ensemble toutes les pratiques. Et dès qu'on met en place un nouvel outil, par exemple, toute la partie technique va vous être expliquée par Marianne, mais dès qu'on met en place un nouvel usage de plateforme, une nouvelle identification des data à exploiter, etc., directement, en fait, on peut travailler ensemble dans ce groupe. Donc, l'idée, c'est que chaque personne appartient à cette nouvelle communauté. Partage ses expériences, partage sa pratique, mais en même temps reçoit. Et ce qu'elle reçoit de cette pratique, elle peut s'en servir dans sa propre institution et elle-même, elle peut la déléguer à d'autres, dans d'autres réseaux, puisque chacun d'entre nous participe aussi à d'autres réseaux. Alors, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, par rapport au beau gros schéma où on voyait toutes les tâches en vert qui étaient les nôtres, on voulait aussi maintenir bien l'équilibre entre les parties scientifiques et la partie éditoriale. Donc, il y a un comité scientifique avec un éditeur en chef, des gestionnaires par thématique, par discipline, et puis il y a le groupe des éditeurs techniques qui se réunit et qui travaille ensemble. Comme bien entendu, il y a quand même des outils qu'on partage pour la soumission, pour le suivi des peer reviews, etc. Il fallait qu'on puisse aussi discuter ensemble. Deux fois par an, on fait un management meeting où là, on a et les scientifiques et les techniques ensemble pour envisager les évolutions à venir, les problèmes rencontrés, etc. Et je laisse la parole à ma collègue Marianne pour la suite.
Du coup, je vais vous parler donc des résultats qu'on a pu obtenir sur ces 12 dernières années. Rapidement, ces quelques chiffres, un peu, donc, environ 5 000 nouveaux taxons décrits. Les taxons, ça peut être des nouvelles espèces, mais ça peut être aussi des genres, des familles. Environ donc 1 100 articles publiés sur les 12 ans. Donc, on a un facteur d'impact. On garde quand même cet indicateur, même si on a signé récemment la convention DORA, la déclaration de San Francisco pour sur l'évaluation de la recherche, qui ne veut pas forcément mettre en avant le facteur d'impact, mais on sait que de toute façon, pour les auteurs, pour l'instant, c'est essentiel d'avoir toujours cet indicateur. Donc pour les 10 ans, les principaux acteurs du journal ont écrit un article. C'était un peu le moment de faire un bilan sur nos pratiques et principalement aussi sur notre chaîne de production. On a pu comparer en fait nos statistiques que nous, on avait en interne et les statistiques qu'on avait via la rétroconversion de tous nos PDF qui sont faits donc, par Pladsi, qui est notre partenaire depuis 2017. C'est une organisation suisse qui récupère tous nos articles et qui les rétroconvertit en XML et les envoie dans les bases de données de notre communauté. Donc, on a pu faire ce bilan de comparaison de statistiques en se rendant compte que c'était plutôt pas mal, cette rétroconversion. Mais on s'est quand même posé les questions de changer donc notre chaîne de production qui était, on publie que des PDF pour l'instant. Et donc, ça, je vais vous en parler par la suite, mais c'est de passer donc à une nouvelle chaîne de production basée sur du single source publishing, comme vous connaissez tous, je pense, avec un fichier donc XML. Je vais passer rapidement sur nos défis, mais en tout cas, nous, nos défis éditoriaux, c'est de continuer en gros à publier des articles de qualité, à garder quand même un bon facteur d'impact, rester en open access le plus possible, donc en diamant, que nos données soient FAIR. Pareil, je pense qu'ici, tout le monde connaît maintenant les données FAIR, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable, et d'avoir un bon archivage toujours de nos articles scientifiques. Le principal défi pour les scientifiques, c'est en fait, je vous ai mis là un peu des gros chiffres sur le déluge de publications et de données que les scientifiques ont à disposition, et c'est toujours compliqué pour eux en fait de trouver une information assez précise et de savoir vraiment ce qui a été publié et ce qu'on publie maintenant. Donc j'en reviens à ce schéma que Isabelle vous a montré sur la taxonomie, et nous en fait on va se Je crois qu'il y a une animation, voilà. Se concentrer sur cette période de temps, sur la comparaison des caractéristiques avec l'existant. Donc, c'est les scientifiques en fait qui comparent tous les taxons, toutes les données auxquelles ils ont accès pour pouvoir ou non décrire des nouvelles espèces. Et nous, notre objectif, c'est que l'extraction de nos données, de nos articles, soit le plus pertinente possible, et ça dès la parution de notre article. Bon, voilà, ouais, on est très fort pour les schémas un peu compliqués, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe en ce moment avec nos PDF et sur nos données, comment elles sont rétroconverties donc par Platzi. Donc au milieu, vous voyez notre article PDF qui est donc découpé par Platzi et qui est envoyé, oulala, je vais me dépêcher, dans les bases de données. Donc, notre article a un DOI, et ce DOI est cité dans toutes les bases de données. Donc ça, c'est important, nous, pour que notre journal soit bien identifié. Mais en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que nous, on ne préstructure pas nos articles en amont. Donc le but de nos nouvelles chaînes de production, ça va être ça va être de créer une nouvelle chaîne de production. Donc, en 2021, je crois, on a décidé donc, de participer à un projet financé par le FNSO qui s'appelle Métotaxa. Donc, Métotaxa, c'est Métop et Taxonomie. Donc, c'était l'objectif de créer une chaîne de production en XML, donc single, avec un fichier XML pivot. Et donc, on a pu identifier toutes les données qu'on voulait identifier dans nos articles. Donc, tous ces identifiants, ces données que nous, on veut retrouver sur les bases de données. Par exemple, pour les auteurs, on a un numéro ORCID qu'on veut lier à l'auteur. On a l'institution qu'on veut lier également à l'auteur, qui, cette institution, a potentiellement un identifiant GRC-COL sur une base de données du GBIF. Donc, c'est par exemple les dates également de soumission, les publications, c'est des dates aussi importantes pour avoir un indicateur sur notre journal. Pour parler un peu du cœur du journal de notre journal scientifique, le cœur donc de nos articles, c'est un traitement. On a pu définir lors du projet Métotaxa ce qu'était un traitement. Donc là, je vous ai mis un exemple. En fait, un traitement, c'est juste toutes les informations sur une espèce. Donc là, c'est une nouvelle espèce, donc avec un titre de traitement, donc c'est sur ce nom choisi pour l'espèce, avec un numéro LSID. Donc ça, c'est le code de zoologie qui nous oblige à avoir cet identifiant, avec donc toutes les informations sur le matériel examiné. Donc ça, c'est aussi le cœur du cœur du traitement qui répertorie les informations de collecte de ce spécimen. Donc, il va avoir le pays, il va avoir donc qui a collecté, quand, comment, et un numéro de spécimen. Ce matériel, donc on a rédigé un article en 2019, il me semble, sur la structuration de ce matériel avec un ordre très précis pour que toutes les informations en fait, soient identifiables par une API de Platzi. Donc, ces traitements, en fait, maintenant, grâce à la rétroconversion, sont déposés indépendamment sur des bases de données et peuvent être cités indépendamment de l'article, comme nos images également, qui sont déposées sur une base de données qui s'appelle Zenodo. Et en fait, ça rend nos données faires, parce qu'elles peuvent être citables indépendamment de l'article dans d'autres articles. Alors. EJT, Isabelle en a un peu parlé, est considéré comme un peu le journal laboratoire du service des publications au muséum. Et c'est grâce à cette fonction de laboratoire en fait, qu'on a pu faire partie de réflexions sur la science ouverte, mais également sur notre domaine dans la communauté de la taxonomie. Donc, on a pu faire partie de plusieurs projets. Donc, je vais parler d'un projet qui s'appelle Bicycle. Bon, je vous épargne l'acronyme, mais en gros, c'est 15 infrastructures européennes, un projet européen sur 3 ans, qui se sont réunis et qui ont discuté en fait, entre métiers. Donc nous, on voulait être présents à ces discussions parce qu'on considère que c'est important que des discussions se passent dans notre communauté et qu'on soit présent. D'autres éditeurs un peu plus gros comme Pensoft, des bioinformaticiens, des scientifiques évidemment. Et le but, c'était vraiment de mettre en commun toutes nos compétences. Et pour je vous ai mis un exemple d'un article qui a été écrit dans le pour ce projet sur des recommandations, des bonnes pratiques de comment utiliser les annotations et les identifiants pérennes, donc comme je vous ai montré un LSID, un DOI par exemple, dans les articles de taxonomie. Donc là rapidement, en fait, c'est grâce à Plazi, on a pu l'idée de cette diapo, en fait, c'est de montrer par des schémas un peu plus ludiques nos statistiques. Et donc, l'idée de cette diapositive aussi, c'est de montrer, donc, par exemple, ce qu'on a pu retirer, c'est que les articles cités dans notre bibliographie ont environ une moyenne d'âge de 44 ans. Donc ça montre aussi le fait que l'impact facteur, ce n'est pas forcément pertinent pour nous, parce que la moyenne de nos articles cités, donc, c'est environ 40 ans, alors que l'impact facteur, c'est basé sur les dernières années, en fait, des articles cités. Donc, c'était un peu pour mettre aussi des nouveaux indicateurs en place. Ça prouve vraiment que la non-pertinence de l'impact facteur comme seul indicateur. Et dernière diapo, mais c'était juste l'idée aussi de montrer des nouveaux indicateurs. Donc, c'est le même labo, enfin, le même lab que Plazi nous a créé donc, sur Internet, où on montre, donc là, il y a les plantes et il y a la zoologie. Donc, nous, avec EJT, on est plus sur la zoologie et l'entomologie, et un peu moins sur les plantes, mais c'était pour, en fait, comparer la provenance des auteurs, où est-ce qu'ils déposaient leur matériel et où est-ce qu'ils récoltaient leur spécimen. Donc c'est vrai que c'est assez flagrant de voir que le matériel récolté, c'est un peu partout et principalement sur la ceinture tropicale, mais que les spécimens sont déposés dans des grandes institutions qui ont une politique vraiment pour la biodiversité. Et bon, là, c'était un peu ma conclusion sur les clés d'un projet réussi dans l'édition, mais et de se réapproprier en fait les techniques, nous éditeurs. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour ce projet Métotaxa qui est quand même assez colossal, et également la collaboration entre les métiers, le fait de, s'il y a des conversations sur notre communauté, d'être présent et de nous faire entendre, nous en tant qu'éditeurs, parmi nous des documentalistes, des bioinformaticiens, des scientifiques et également des décideurs, pour pouvoir aussi prouver qu'on a un poids et qu'on sert à quelque chose, en tout cas dans la biodiversité, nous, en tant que journaux scientifiques. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute.